Africa.
Tout feu tout foot, l'émission 100% foot présentée par Lamine Badiane sur Africa Radio.
Salut à tous, nous vous avons très nombreux pour ce rendez-vous du lundi. Avec une équipe de tout feu tout foot au grand complet, nous allons comme à chaque fois parcourir avec vous toute l'actualité du football africain sur le continent. Au menu de ce soir, les championnats africains avec une actualité très très dense avec la Ligue des champions africaine, la Coupe de la Confédération africaine, Coupe de la CAF, hein, c'est bien ça. Beaucoup de choses se sont passées sur les terrains et hors du terrain, nous allons vous raconter tout cela. Avec un débat sur Génération Foot qui s'est déplacé en Égypte et qui n'a pas joué, la faute à la CAF. Sadio Mané et Salah sont out, les meilleurs joueurs dans le classement mondial, la faute à la FIFA. Restez avec nous. Nous donnerons aussi les résultats de la Coupe de l'UEFA. En deuxième partie, nous aborderons les championnats européens avec les championnats d'Espagne, d'Angleterre et de France. Enfin, nous vous donnerons des brèves du continent. Si et seulement si nous n'avons pas débordé, c'est tout un programme. Alors, pour vous décortiquer tout cela, salut le doyen Willy Dorkono.
Oui, salut coach, salut Hakim, salut la belle Hélène, salut Chris.
Hakim Djellouat.
Bonsoir coach Lamine, bonsoir à tous les auditeurs, toutes les auditrices d'Africa Radio et de Tout Feu Tout Foot. Et salut à tout le plateau, coucou à Christian et Hélène.
Christian Chango.
Bonsoir coach, salut le plateau, bis à Hélène à la réalisation, coucou à tous les auditeurs. Bah écoute, hein, j'espère que vous êtes tous en forme les gars, il y a du pain sur la planche.
Ah ça, c'est le cas de le dire hein, de toutes les façons. Messieurs, let's begin with the African Championship avec les résultats de la Ligue des Champions, les champions.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Et nous commençons avec les résultats de la Ligue des Champions. Christian Chango, c'est parti.
Oui, les résultats coach de la Ligue des Champions africaine, les 16e de finale retour de la Ligue des Champions avec les matchs du vendredi. KCCA et d'Ouganda qui jouaient face à Petro d'Angola. Un match nul, un but partout et c'est Petro d'Angola qui se qualifie. Et Mamelodi Sundowns face d'Afrique du Sud face aux Côtes d'Or des Seychelles. Match retour, 11 buts à 1. Au match aller, il y avait eu 5-0, qualification du Sundowns. L'Espérance Tunis face à Elect Sport du Tchad, 2-1 pour l'Espérance qui se qualifie. Le Raja Casablanca du Maroc était opposé à El Nasr Ensar, pardon, de Libye, 1-0.
El Nasr.
Victoire, match nul, pardon, 1-0 et qualification du Raja. Al Ahly d'Égypte face à Kano Sport de Guinée équatoriale, 4-0. Pour Al Ahly et qualification d'Al Ahly. Le Zesco United de Zambie face à Young Africans de Tanzanie. 2-1 pour le Zesco qui se qualifie. Udezongo du Mozambique face au FC Platinum du Zimbabwe. 4-2 pour le FC Platinum qui se qualifie. Oroya de Guinée était opposé à la JS Kabylie d'Algérie. Victoire 2-0 d'Oroya. Il y avait eu 2-0 à l'aller, donc séance de tir au but. Et c'est la JS Kabylie qui l'a emporté 5-3. Donc la JS Kabylie se qualifie. L'AS Vita Club de RDC face à ACSK du Togo. 1-0 pour le Vita Club qui se qualifie. El Hilal du Soudan face à Enyimba du Nigeria. 1-0 pour El Hilal qui se qualifie. Gor Mahia du Kenya était opposé à l'USM Alger d'Algérie. Victoire 2-0 de l'USMA qui se qualifie. L'Étoile du Sahel de Tunisie face à Asante Kotoko du Ghana. 3-0 victoire de l'Étoile qualifiée. Le Wydad Casablanca du Maroc face à Nouadhibou de Mauritanie. 4-1 pour le Wydad qui se qualifie. Primeiro de Agosto d'Angola face à Green Eagles de Zambie. Victoire des Zambiens 1-0. Mais au match aller, il y avait eu 2-1. Donc victoire et qualification de Primeiro de Agosto. Et enfin, une des meilleures équipes d'Afrique, le TP Mazembe de RDC face à Fossa Juniors de Madagascar. Victoire du Mazembe 3-1 et qualification. Et enfin, il y avait un dernier match, on va en parler. Le Zamalek était opposé à Zamalek d'Égypte face à Génération Foot du Sénégal. On rappelle qu'au match aller, il y avait 2-1 pour Génération Foot et le match retour n'a pas eu lieu. Pourquoi ? On va en parler.
On va en parler, on va expliquer aux éditeurs ce qui s'est passé du côté du Caire. En tout cas, c'est un véritable feuilleton. Mais on va parler du tout-puissant Mazembe qui était opposé à Fosa Junior avec la victoire du tout-puissant Mazembe. Mais nous avions voulu connaître vraiment cette équipe de Fosa Sport, l'équipe malgache. Et nous avons notre correspondant Mika depuis Madagascar qui va nous parler de cette équipe. Cool. Mika, bonsoir.
Oui, bonsoir Lamine, à tous les chroniqueurs et à tous les auditeurs de Africa Sport.
Bonsoir.
Alors Mika, 3-1, est-ce que réellement du côté de Madagascar on s'attendait à une défaite d'une élimination de Fosa Junior?
Disons plutôt que tout le monde a espéré qu'on pouvait faire l'exploit. Tout le monde connaît déjà la force de TP Mazembe qui est l'une des meilleures équipes du continent africain. Mmh. On a fait un très bon match à l'aller avec un 0-0 où on a dominé, mais on savait que ça allait être très compliqué sur le match retour. On savait que les joueurs allaient tout donner, mais malheureusement ça n'a pas suffi. À la mi-temps, avec le 1 partout, on pensait que on pouvait créer l'exploit et éliminer le tout-puissant Mazembe, mais à la fin c'est le meilleur qui a gagné.
Mmh. Alors, on va revenir un peu sur ce football malgache, parce que c'est un football qui nous a étonnés depuis la Coupe d'Afrique des Nations, où c'est une équipe qui est allée jusqu'en quart de finale. Et est-ce qu'il y a eu après des retombées? Comment ça s'est passé après? Est-ce que c'est descendu?
En tout cas, ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens sont devenus très exigeants par rapport aux résultats de toutes les équipes, que ce soit l'équipe nationale ou les clubs. Donc, quand le CNAP Sport, c'est l'équipe qui joue la Coupe de la Confédération, que ce soit Fosa, tout le monde pense qu'on pourrait faire quelque chose de grand comme l'équipe nationale a fait. Les gens sont un peu frustrés, c'est vrai, après la défaite 3-1. Mais c'est quelque part un mal pour un bien, parce que très bientôt, on va jouer un grand match pour l'équipe nationale, la CHAN, c'est-à-dire les joueurs locaux. Mm-hmm. C'est un match très important face à la Namibie. On a gagné 1-0 à l'aller pour la CHAN. Donc, si on arrive à faire quelque chose pour le match retour, on sera également qualifié pour la première fois de l'histoire pour la CHAN, qui aura lieu au Cameroun au début de l'année. Donc, les gens sont un peu malheureux, mais au final, c'est un mal pour un bien, quelque part.
Ouais. Bonsoir, Mika. Bonsoir Mika, très heureux de vous entendre. Hakim Djellouat avec vous sur le plateau. Une question par rapport justement à cette belle équipe qui a remporté le championnat malgache, Fosa Junior FC. On se souvient en fait de ce score vierge le 15 septembre dernier face au tout-puissant Mazembe, un score en fait qui a tenu en haleine, bien sûr, cette belle compétition qu'est la Ligue des Champions africaine. Ce n'est pas terminé, puisque vous allez être reversé dans la Coupe de la Confédération africaine. Donc la compétition continentale n'est pas finie pour le Fosa Sport, Fosa Junior. Quelles sont justement les leçons à tirer par rapport à cette rencontre face au tout-puissant Mazembe dans ce match retour du côté de Lubumbashi?
Avant toute chose, c'est de savoir l'écart qui nous manque encore par rapport aux grands clubs des équipes africaines. Après, on savait que ça allait être très difficile, mais maintenant, on sait ce qu'il faut faire, en tout cas, pour espérer faire mieux dans la Coupe de la Confédération. C'était une très bonne chose d'affronter une grande équipe comme l'équipe de TP Mazembe.
Oui.
Ça nous a permis d'acquérir de l'expérience, que ce soit sur le plan sportif ou autre. Donc maintenant, on espère, car l'équipe de Fosa est une très bonne équipe, avec un jeu bien structuré que tout le monde connaît ici à Madagascar. Dès que c'est Fosa Junior qui joue, tout le monde connaît comment il joue. C'est un jeu très...
Il y a des internationaux dans cette équipe? Il y a des internationaux
Il y a des internationaux dans cette équipe. Il y a un joueur qui a joué la CAN avec l'équipe des Barrias, Siracoutou Arsou Romario Baggio. Et c'est aussi l'un des cadres de l'équipe de la CHAN, de l'équipe nationale.
Alors, il y a quand même, on a eu écho de quelques petits problèmes du côté de cette équipe des Barrias, avec un peu des primes qui ne sont pas payées, reconduction de l'entraîneur Dupuis, qui aussi pose des problèmes, qui ne veut pas y aller. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en train d'être réglé, ou dites-nous un peu comment ça se passe? Parce que ce serait dommage quand même qu'il y ait encore ce genre de problème par rapport à la fédération et l'équipe nationale.
Tout ce que je peux dire, c'est que ça fait un mois que la fédération en place essaie de régler tous les problèmes. Avant, c'était le comité de normalisation qui gérait la situation. En ce moment, ils sont en train d'essayer de régler tous les arriérés qui n'ont pas été payés avant. Donc, j'espère que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on pourrait régler le problème et que le football malgache puisse avancer, parce que je pense que c'est très dommage que ce soit après l'exploit qu'on a fait à la CAN, on va s'arrêter là. Je pense plutôt que c'était un début, et j'espère qu'on va faire encore de grandes choses après avec les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN.
Oui, Doyen Philippe.
Bonjour Monsieur Mika, c'est Willy Dorkenou. J'aimerais savoir, parce qu'on a vu la prouesse malgache à la CAN, mais j'aimerais savoir s'il y avait un engouement à l'intérieur de Madagascar pour le football, c'est-à-dire qu'il y a un championnat avant la CAN.
Le problème ici, c'est que vraiment, c'est vraiment divisé en deux, parce que pour les championnats nationaux qui se déroulent, ça n'attire pas vraiment grand monde. Okay. Mais quand c'est les barrières de Madagascar qui jouent, c'est vraiment la folie totale. Ouais. Par exemple, lorsqu'on a joué le Sénégal ici à Mamasne, il y a eu à peu près le stade, il pouvait recevoir à peu près 22 à 23 000 personnes. Il y a eu 100 000 personnes qui étaient là, donc ça a été difficile de pouvoir régler les
encadrer problèmes.
C'est pour ça qu'il y a eu, c'est pour ça qu'il y a eu un mort.
Ouais.
Cette année, c'est encore l'engouement, il est encore exceptionnel. Ouais. Va être encore plus exceptionnel qu'avant. Par exemple, quand les Baréas, ils étaient arrivés à l'aéroport pour rejoindre la ville, il y a eu à peu près, je sais pas, 500 à 600 000 personnes dans la rue.
Ah, ils sont rentrés comme des héros.
Oui, c'est ça. Ils ont mis, je sais pas, une dizaine d'heures pour faire 5 ou 10 kilomètres.
Ouais, c'était énorme.
Formidable.
Ça a été la folie totale. Cette année, on espère changer les choses, parce que pour la première fois, il va y avoir un championnat semi-pro à Madagascar, ce qui n'était pas le cas avant.
Ouais.
Donc, il y aura 10 équipes, les 10 meilleures équipes de première division. Et pour la première fois, il va y avoir des matchs aller-retour. On espère, avec un peu de marketing et de communication, que ça va drainer beaucoup de monde.
Okay. Merci. Grâce notamment Mika à la présidence tenue par justement un malgache, est-ce que vous avez le soutien justement d'Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, par rapport justement à cet engouement qu'on a eu à la CAN de Madagascar, mais pas seulement, depuis quand même quelques années, avec Tout Feu Tout Voûte, Lamine, avec Christian, avec Willy, on suit le football malgache de très près. Et également les clubs en compétition continentale. Est-ce qu'il y a eu un soutien de la part de, en tout cas, soutien moral de la part de la Confédération africaine de football?
Sincèrement, ça, je l'ignore, s'il y a eu des dialogues ou des soutiens. Tout ce que je peux dire, c'est que le passage de l'équipe qui participe à la CAN, qui est passée de 16 à 24, nous a beaucoup aidés. Même si on fait partie des premiers pays à être qualifiés, mais passer de 16 à 24 pays qualifiés, ça nous a beaucoup aidé en tout cas.
En tout cas, merci beaucoup Mika. Je vais pas donner le nom de famille. Hein. Mika, donne-nous ton nom de famille.
Mika Rahir Souanzat, nous les Malgaches, on a des noms de famille assez longs. Je crois que tu as bien aimé quand tu étais venu à Madagascar.
Ben oui, et puis bon, j'ai beaucoup apprécié. Et surtout que Mika est un journaliste réellement très très professionnel. Ouais. Je peux vous dire qu'il a été quand même un peu le consultant et surtout l'homme de communication de la fédération Malagachi de football. Il s'occupe beaucoup de basket aussi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné des nouvelles, Mika, de cette équipe des Baréas, du football malgache.
On va suivre.
Si, on va suivre et on va vous appeler de temps en temps pour nous donner des choses. En tout cas, si vous voulez nous appeler et puis avoir des nouvelles de Madagascar et du football malgache, 33 1 55 07 58 00 ou par WhatsApp 33 7 66 19 77 69. Mika, à bientôt. Merci beaucoup.
À bientôt à vous aussi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'était très, très bien en tout cas. Messieurs, nous allons continuer. Nous allons continuer donc ce tour d'horizon de cette Ligue des Champions. Mais cette fois-ci, Christian Chango, nous allons parler un peu peut-être de l'équipe de Génération Foot. Hein, on va appeler l'ex-entraîneur de Génération Foot. Je ne sais pas si on m'appelle pour Monsieur Demba Mbaye ou éventuellement Demba Mbaye ou Oroya, pour pouvoir parler un peu de ce qui s'est passé, Doyen Willy, sur les terrains. D'une manière générale, comment vous avez trouvé ces résultats?
Oui, mais les grands se sont imposés. Globalement, on n'a pas vu de surprise. Donc, on a vu des pays habitués à être au devant de la scène en Afrique, qui sont toujours là. Quand on voit le score des Sundowns face aux pauvres Seychellois, donc ils sont toujours là, les grands sont toujours là, comme les Mazembe, ils ont été bousculés par les Malgaches, mais ils ont tout fait pour être vainqueurs de ce match.
Mais oui, quand on voit aussi le Al Ahly qui bat le Kano Sport 4-0, il y a pas photo. Quoi.
Non.
Il y a pas donc finalement Doyen, Hakim et Christian, il y a pas eu de surprise.
Non, globalement tout, on va dire que la logique sportive de ces derniers mois, sur ces deux dernières saisons, quand on regarde les équipes qualifiées, les principales grosses équipes sont qualifiées. Juste, là, il y a le match entre Oroya et la JSK. Oroya qui passe pas le cap, donc qui va être reversé en Europa League, j'allais dire, en Coupe de la CAF, pardon. Mmh. Mais sinon, globalement, ça a été à peu près dans l'idée. On a vu aussi le Raja. Hein. Le Raja, ils ont eu du mal. Le Raja Casablanca. Ouais. Mais ça passe aussi pour eux. Donc non, pas trop de grosses surprises pour cette phase retour de la Coupe de la Ligue des Champions. Pardon. Juste dans les équipes. Hein. Une équipe sud-africaine, deux équipes algériennes, deux équipes angolaises, une équipe égyptienne, deux équipes marocaines, deux équipes de la RD Congo, une équipe soudanaise, deux équipes tunisiennes, une équipe de Zambie et une équipe du Zimbabwe, en attendant la décision entre Zamalek et Génération Foot.
Oui, il y a aussi cette équipe de l'Étoile du Sahel qui, elle, a battu l'Agentic Kotoko 3-0. Oui. Je pense que ça aussi, c'est à noter. On va peut-être... Oui,
Doyen. Quand on connaît plus le Kotoko, le football ghanéen est vraiment... en danger, on l'a vu aussi à la CAN, parce que c'est un football qui est devenu très... Ils ont mis les sous, l'argent de côté, donc avec les académies qui poussent partout dans tous les sens. Donc le niveau du football ghanéen a baissé énormément.
Ouais. Nous allons aller du côté du Standard pour avoir bien sûr Salim. Salim qui voudrait réagir très très rapidement à nos résultats. Allô Salim ?
Allô, coach Lamine, bonsoir à tout le monde sur le plateau.
Salut, Salim.
Coach, oui, je voulais réagir par rapport à ce match entre l'Étoile du Sahel et la Chantilly Kotoko. C'est quand même pour moi une surprise parce que la Chantilly Kotoko avait remporté le match 2-0 à l'aller au Ghana. Et j'ai pas compris, en fait, lors de ce match retour, ce que la Chantilly Kotoko a fait. Étant donné qu'il faut rappeler que c'est un très grand du continent, à l'image aussi de Hearts of Oak, c'est des très grands clubs africains et pas que ghanéens. Et ils ont joué ce match retour à Monastir, hein, je rappelle, sans la présence du public, puisque le stade de l'Étoile du Sahel est en travaux, donc pour les deux prochaines années. La Chantilly Kotoko est venue avec aucune intention, c'est-à-dire ils n'ont pas joué, ils n'ont pas développé leur football, ils n'ont pas essayé de chercher à poser des problèmes à l'Étoile dans le jeu, ils ont cherché qu'à perdre du temps, à essayer d'énerver leur adversaire, à essayer de gagner même du temps sur des touches ou bien des remises en jeu.
Mais ça, c'est pas étonnant hein, de la part du football.
Non, mais ça m'étonne.
Non, c'est étonnant.
Non, mais coach Lamine, normalement, les Ghanéens, ils sont connus, la Chantilly Kotoko, l'Hearts of Oak, ils sont connus pour être forts à l'extérieur aussi. C'est comme les Sud-Africains. Les clubs sud-africains sont forts à l'extérieur, les clubs ghanéens sont forts à l'extérieur. Et même les clubs ghanéens, ils sont plus forts que les Nigérians à l'extérieur, d'habitude. En Ligue des Champions, en Ligue de la CAF, ça fait des années.
D'habitude, Hakim.
Non, mais sur ce que souligne Salim, c'est intéressant.
Ouais, mais ce que le doyen dit aussi, c'est très très bien. Parce que quand il dit que le football ghanéen a baissé, parce que tout simplement,
c'est devenu mercantile.
C'est une réalité, effectivement. Au niveau, comme le dit Willy, c'est-à-dire mercatiquement, parlant, effectivement, le football n'est plus le même que auparavant. On avait vu effectivement le Ghana remporter la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde des moins de 20 ans, la génération dorée qu'on a connue. Maintenant, le Ghana, je pense qu'il doit se restructurer. Il doit
la gestion du football au Ghana.
Retravailler ça, exactement, sa gestion au niveau footballistique. Ouais. Mais quand on reprend effectivement cette rencontre, là où je rejoins Salim, et c'est vrai, on n'a pas vu en fait un Ghana qui va de l'avant tout de suite, en fait, qui fait le jeu, qui essaye de déstabiliser un peu ses adversaires, comme on a coutume de les voir sur ces compétitions-là. Et ça a été effectivement une bonne chose, en tout cas pour l'Étoile Sportive du Sahel, qui s'est bien racheté dans cette rencontre, Lamine, malgré, et Salim l'a souligné, l'absence du public. Ça aussi, c'est important. On sait que le public tunisien est friand de football, est friand des Aigles de Carthage, de ces clubs-là qui font la part belle en coupe de la CAF, en Ligue des Champions africaines. Ouais. Et malgré effectivement l'absence du public, en tout cas d'une grande majorité de ceux qui aiment l'Étoile Sportive du Sahel, eh bien l'Étoile Sportive du Sahel a réussi à renverser la vapeur. Et ça, c'est une bonne chose.
Et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle pour du côté de la Tunisie. Salim, vous restez avec nous, s'il vous plaît, parce qu'on a une urgence, c'est-à-dire qu'on a notre correspondant Alpha Barry du côté de Conakry pour nous parler de ce fameux match entre Oroya et
la GSK.
Et la GSK. Allô ? Allô, Alpha ?
Oui, Alpha Madi Touré.
Alpha Madi
bonsoir,
Touré.
Bonsoir, Lamine. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Salut, Alpha.
Bonsoir, salut. Alpha. Vous avez Christian Chango, que vous connaissez bien. Ah. Vous avez bien sûr le doyen Willy Dorkono et vous avez Hakim Gelouat et bien sûr Salim qui connaît bien le football tunisien et maghrébin. Alors, la première des questions que je vais vous poser, c'est que vous avez Oroya a réussi à revenir à 2-2, mais malheureusement Oroya a perdu, a été éliminé. On va parler rapidement de ce qui s'est passé au match aller où le Oroya devait jouer à Alger, puis le match a été déplacé par la CAF à Tizi Ouzou. Le match retour, n'est-ce pas, vous êtes allé pour filmer un peu les 15 minutes qu'on donne partout dans le monde pour pouvoir filmer un peu l'adversaire. Et il y a eu un peu de bagarre avec les joueurs de la JSK. Et puis ensuite, ce match, ce fameux match où on a tant attendu le Oroya qui est éliminé, une véritable catastrophe. Racontez-nous tout ça.
Oui, c'est vrai que la partie qui marque le plus, c'est cette mésentente, on va dire, hein, qui a failli virer à l'incontrôlable, franchement, entre notre journaliste Salou Yombouno et un membre du staff de
la GSK.
De la GS Kabylie. Mais bon, on va parler de l'actualité. On a condamné cette situation. En ce qui concerne le match aller, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu un très mauvais déplacement du Oroya. Certains observateurs considèrent d'ailleurs que c'est à partir de là que l'élimination a été consommée. Ils sont tombés sur une GS Kabylie en pleine confiance avec son public. Vous l'avez dit, il y a eu un imbroglio extraordinaire avant ce match. Le Oroya voulait jouer. Le Oroya avait été notifié que le match se déroulait à Alger. Et la Confédération africaine de football, sous pression de la JS Kabylie, a finalement décidé que le match se jouerait donc en terre kabyle. Et finalement, on a vu ce qui s'est passé. Il y avait un soutien du public, mais derrière, sur le plan sportif, il faut dire que le Oroya a été, absent toute une mi-temps. La première est soldée sur le score de 0-0, mais en deuxième explication, c'était un Oroya méconnaissable. Derrière, il y avait un attaquant exceptionnel, Hamza Banou, qui a planté un doublé. Ce attaquant, d'ailleurs, n'est pas venu à Conakry.
Il n'est pas venu à Conakry.
Effectivement, il a manqué le voyage de Conakry. Ça peut expliquer le fait qu'offensivement, les Algériens n'ont pas répondu ici à Conakry lors du match retour. Donc, comme vous l'avez dit, il y a eu cet incident. On n'a pas pu filmer les 15 minutes réglementaires. Et puis vient le match, le stade plein à 80%. Le Oroya s'est mis la pression dès l'entame. Quelques occasions, mais le club ne parvient pas à trouver le chemin des filets. Il y a une très belle résistance des Algériens qui sont regroupés derrière. Mais le Oroya dispose de joueurs assez techniques, au Quartier Mandela, on en parle encore, des joueurs très actifs. Mohamed Djibo, qui est en train de jouer en ce moment même au Sénégal, à Thiès, le tournoi de l'UFOA. Ils ont réussi quand même à faire en sorte qu'il y ait une diminution de l'effectif adverse, c'est-à-dire qu'un carton rouge a été brandi par l'arbitre de cette rencontre. Donc la JSK s'est retrouvée à 10 contre 11 depuis la première explication. Du coup, le Oréa a continué à mettre la pression. Le Oréa n'a pas pu malheureusement marquer de but. Il va falloir attendre les 20 dernières minutes pour que le Oréa puisse refaire son retard du match aller. Donc 2-0. Le premier but, Boladji Sakin, le Nigérian, qui centre sur le côté droit, il dépose tranquillement sur la tête d'un certain Aristide Bansé, l'international burkinabé. Coup de tête, le ballon rebondit et prend le gardien de but de la JSK. Le deuxième but, centre de Yakubu, le Ghanéen, qui jouait dans le championnat togolais il y a pas longtemps, ne jouait pas depuis un certain temps, depuis le match, la défaite 5-0 du Oréa en quart de finale contre le Wydad de Casablanca. Il effectuait son grand retour parce qu'il y avait l'arrière droit du Oréa, Boumangué, qui est blessé, donc qui est absent pour un mois. Du coup, ce centre vient de lui et sur la tête, encore une fois, d'Aristide Bansé, qui remise cette fois-ci pour l'attaquant congolais Eritier Sambo, qui lui contrôle du pied gauche et enchaîne avec le pied droit. Ça fait donc 2-0 la mine pour le Oréa, qui à partir de ce moment a refait son retard et a une chance de se qualifier pour le prochain tour.
Alors donc les pénaltys, on va pas raconter, de toutes les façons ils perdent au pénalty. Mais c'est qu'il faudrait peut-être.
Fait mal, je sais pas comment le dire, mais c'est que c'est Eric Makambo qui marque le deuxième but, le but libérateur.
Et qui rate son pénalty.
Rate son pénalty, et bien voilà, le capitaine Ben Chérifia, côté algérien, va lui inscrire le pénalty victorieux.
Alors, avant de vous laisser le sous le feu de mes collègues, moi j'ai deux questions à vous poser. La première question, c'est que pourquoi le Oroya a accepté la décision de la CAF d'aller jouer à Tizi Ouzou. Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on ne s'attendait pas que le Oréa, avec tous les investissements qui sont faits par le président, aujourd'hui, soit éliminé et va être reversé peut-être dans la Coupe de la CAF. Est-ce que c'est ça qui est vraiment l'objectif du Oréa au départ?
Le Oréa va être reversé en Coupe CAF, mais jouera un match de barrage en aller-retour. À partir de la décision de ce match, le Oréa pourra donc intégrer les phases de poule de la Coupe de la Confédération. Je démarre par la deuxième question. C'est vrai que l'objectif du Oréa depuis 2 ans maintenant, c'est de dépasser le cap des quarts de finale. Le Oréa, ça fait 2 quarts de finale successifs. Donc l'ambition cette année, c'était d'intégrer les phases de, non seulement intégrer les phases de poule de la Ligue des Champions, mais franchir le cap des quarts de finale. Le Oréa n'a même pas atteint les phases de poule de la Ligue des Champions, mais nous avons eu, là je vous donne en exclusivité parce que l'interview n'est pas encore diffusée sur CIS TV, ça doit être diffusé dans 1 heure. Le président donc Soufiane Soaré de ce Oréa AC qui ne compte pas se libérer de sitôt de son coach qui est sous la sellette, critiqué par la presse locale en partie. Mais il n'est pas question de le libérer, on lui donne une seconde chance et cette chance sera de faire un parcours intéressant en Coupe de la Confédération. Soit en finale ou peut-être remporter la compétition.
Okay. La GSK Billy.
Vous avez posé une question par rapport à Tizi Ouzou. Le Oréa, à travers son secrétariat général, a contesté cette décision de la CAF. Il y a un document qui a été publié dans la presse dans ce sens. Le Oréa a saisi la CAF, a demandé à ce que le match se joue à Alger. Malheureusement, je sais pas si on va parler de faiblesse de l'administration du Oroya ou de puissance de celle de la GSK, mais en tout cas, force est de reconnaître.
Ou incompétence de la CAF.
Finalement, le. ouais, peut-être, pourquoi pas. De
la oui, pourquoi pas,
tout simplement. C'est,
en fait, c'est ce que j'attendais.
dans la décision de la CAF, elle a motivé en fait sa décision par le fait que c'est un stade dont. Les inspections d'homologation donc devraient prendre fin après le match du Oroya. Ouais, donc il était encore dans le délai réglementaire. Malheureusement, voilà, ce fut comme ça et l'Oroya a joué à Tizouzé. Ce qui est malheureux, c'est que l'Oroya avait ses quartiers à Alger. Et partait
à Tizi Ouzou pour jouer.
À quelques kilomètres,
ouais. Venir dormir et puis aller jouer à Tizi Ouzou.
Alors, Hakim.
Je pense qu'effectivement, la stratégie de la JS Kabylie, c'était effectivement de se rapprocher de son public. Les Kabyles du côté de Tizi Ouzou sont nombreux, sont friands de football, un peu comme en Tunisie pour l'Étoile Sportive du Sahel ou l'Espérance de Tunis. La JSK, c'est pas n'importe qui, c'est deux titres de Ligue des Champions africaines en 80 et en 90, c'est trois coupes de la CAF, c'est 20 titres de champion d'Algérie. Donc je pense que la JSK Kabylie a bien négocié effectivement son retour. Mais est-ce que, moi c'est la question que je voulais poser à notre cher confrère, c'est est-ce que l'Oroya effectivement n'a pas perdu son match, n'a pas perdu sa qualif au match aller?
Effectivement, l'Oroya a perdu sa qualif au match aller. Bon, je voudrais relativiser par rapport à la grandeur enfin, c'est un grand club, la JSK, ou la Ligue des Champions. Et ça fait 11 ans que la JSK n'a pas intégré les phases de poule de la Ligue des Champions. Donc, sur ces dernières années, l'Oroya était grand. Maintenant, l'Oroya se déplace. L'Oroya est en manque de joueurs, c'est-à-dire qu'il y a le métronome de ce milieu de terrain qui avait été inscrit pour même cette année. Sur la liste du Oroya pour la Ligue des Champions, Abdoulaye Faye Camara, qui a quitté le club, voilà, contre toute attente. Et il y a un deuxième métronome du milieu de terrain, Bafor Sebe, le Ghanéen, qui lui aussi s'est blessé. Du coup, il y a eu des recrutements, le Zimbabwéen Raphaël Coutinho, qui est venu blessé. Il a repris hier, lors du match retour. C'était sa première entrée en jeu. On a vu que c'était un joueur intéressant. Il y a un autre joueur du milieu de terrain, Morlaï Silla, international U23 guinéen et international local, qui venait de disputer, juste à la veille du match aller, un match d'éliminatoire contre la Côte d'Ivoire, du coup, qui est arrivé en retard en Algérie et qui était court physiquement. Après, donc, il y a beaucoup de circonstances comme ça. Hein, et je peux parler aussi de l'arrière gauche, donc Yakubu qui a joué hier, qui n'y était pas. Ça fait un choix du coach. Donc voilà, il y a eu des circonstances comme ça qui n'expliquent pas peut-être la défaite du Oroya forcément, mais ce sont des ingrédients qu'on peut prendre en compte. Le Oroya n'a pas eu les armes qu'il faut pour s'imposer en déplacement ou tout au moins limiter la casse. 1-0, ça n'aurait pas été mauvais, mais là 2-0, je pense que effectivement vous avez raison, la défaite a été consommée. Alors, en déplacement en Algérie.
Alpha, on va rapidement prendre Salim qui est de l'autre côté. Rapidement pour vous poser peut-être une question. Salim, vous êtes avec nous ?
Oui, oui.
Oui, alors, le match du Oroya, vous l'avez vu comment, vous ?
Bah, le match du Oroya, je l'ai suivi, bien sûr, contre la GSK. Il y avait une défaite 2-0 à l'aller en Algérie, avec une GSK qui avait manqué énormément d'occasions. Et moi, je pensais sincèrement que le Oroya allait remonter ce score-là. Alors, ils l'ont fait. Il y a eu bien sûr 2-0, victoire 2-0. En Guinée, mais malheureusement, elles ont perdu au tir au but. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la GSK est sur une bonne spirale actuellement en championnat, et la GSK, c'est vrai, parle de la Coupe d'Afrique, revenir en Coupe d'Afrique. Il faut savoir aussi que la GSK a un nouveau stade, donc tout ça, ça booste un peu le projet Champions League. Mais moi, je me dis, bon, la GSK a commis quand même quelques erreurs, notamment lors du dernier mercato. Ils ont vendu Boukenchouch, leur milieu de terrain, le meilleur milieu de terrain pour moi de championnat algérien, ils l'ont vendu à l'Étoile Sportive du Sahel. C'est d'ailleurs grâce à lui que l'Étoile Sportive du
Sahel. Oula, on est en train de perdre Salim.
Ouais.
Oui, alors, oui, doyen, rapidement.
Oui,
il nous reste quelques minutes.
Bonjour, Alpha, et c'est Willy Dorkenou. Ouais. Et la gestion de M. Soaré, que je connais très, très bien, et qui aime vraiment le foot, qui investit dans le foot, comment son club est si mal géré par rapport à ce que vous racontez? Parce que moi, je vois que les décisions sont prises dans tous les sens, je ne comprends pas.
Je comprends pas parfaitement votre question.
Non, c'est la gestion de ce qui s'est passé au match aller. C'est ça qu'on est en train de se poser des questions.
Des joueurs qui viennent en retard, des choses comme ça. Donc, j'arrive pas à comprendre.
Oui, mais ça c'est purement sportif. C'est-à-dire que je parlais de Morlaï Sylla qui était en sélection.
Oui.
Je ne vois pas comment Lauria peut poser un veto à ce qu'un joueur ne joue pas en sélection. Aristide Bansé également était en sélection, Mohamed Thibault était en sélection. Donc il y a des joueurs qui étaient convoqués avec leurs équipes nationales. Je ne sais pas comment le club à ce moment pouvait
refuser les sélections et arriver à
voilà, exactement.
Okay. Christian Chango, une dernière question rapidement pour Alpha.
Alpha, c'est Christian, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te demander par rapport à Oroya et plus globalement sur le foot guinéen, est-ce que pour toi il y a du mieux sur ces dernières saisons, sur ce qu'on a vu par rapport à l'an dernier, et est-ce que le Oroya aura ses chances s'il passe le tour de cadrage en Coupe de la CAF?
Bonsoir le Marocain.
Salut mon ami.
Très bien. Donc pour répondre à votre question, léger mieux, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un léger mieux pour le moment. Et pour le football guinéen, bon, déjà vous savez qu'on sort d'une CAN catastrophique avec le Tili National A. Hier, ce sont deux clubs guinéens qui se sont fait éliminer en Coupe africaine, le Oroya en Ligue des Champions et le Santoba en Coupe CAF, qui s'est fait laminer 3-0 par l'FC San Pedro de Côte d'Ivoire. Donc c'est globalement ça ne va pas, ça ne va pas. Maintenant pour le Oroya on peut relativiser. C'est que c'est vrai que Darosa il prend une équipe il y a 6 mois, donc il fait la fin de saison avec le Oroya, il remporte le championnat et la coupe. Mais entre-temps, il perd des joueurs. C'est-à-dire que l'Oréal libère des joueurs, l'Oréal effectue un recrutement. Il y a certains joueurs qui sont venus blessés, il y a d'autres joueurs, des joueurs cadres qui se sont blessés entre-temps, il y a des joueurs qui avaient besoin du temps d'adaptation. Le championnat de Guinée n'a pas démarré parce qu'il n'y a pas d'argent pour démarrer ce championnat. Donc les joueurs ne sont pas en jambes, il n'y a pas de compétition. L'Oréal a préparé toute la campagne africaine par des matchs amicaux qui ont été négociés ça et là sur le plan local. Donc je pense que en ce moment-là précis, ça ne va pas tout à fait pour le football guinéen.
Merci Alpha, merci d'être venu sur la radio africaine. En tout cas, Africa Radio vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup.
Salut Alpha, ciao.
Merci Alpha. On fait une pause et on revient tout de suite. Hakim, on revient.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Sur la radio africaine, Africa Radio, bien sûr, sur le 92.3 à Melun, le Mantes-la-Jolie 87.6, Abidjan 91.1 et puis bien sûr le 107.5 avec Christian Chango, avec le doyen Willy Dorkono, avec Hakim Djellouat. Christian Chango va continuer un peu sur les résultats de la Coupe de la CAF, si on les a rapidement. Allez, c'est parti.
Les résultats de la Coupe de la CAF, donc pareil que la Ligue des Champions africaine, ça jouait donc ce week-end. Et donc il y aura un tour de cadrage avec les éliminés de la Ligue des Champions qui vont arriver avant la phase de poule. On va donner donc les résultats. Belouizdad face à Pyramide FC, 1-0 pour Pyramide FC qui se qualifie. FC San Pedro face à Santoba FC, on en parlait là justement avec Alpha Madi, victoire du FC San Pedro 3-0. Enugu Rangers a battu la SPLiga en 3-1. L'US Ben Gardan a battu Bandari FC 2-1 et qualifié. Al-Masri a battu Malinda FC et 3-1, qualification d'Al-Masri. Hassania Agadir, Al-Ittihad Tripoli 0-0 au match aller, 1-0. Berkane a battu Ashanti Gold SC 2-0 et se qualifie. Salitas FC a fait match nul 0-0 face à FCE SAE. Proline FC a battu Eskigali 2-1. Zanaco FC a battu Bolton City 3-0. Triangle United a battu Azam FC 1 but à 0 et se qualifie. Knap Sport a perdu face à TS Galaxy 3 buts à 1 et est éliminé. Bidvest-Wits a battu les Young Buffaloes 3 buts à 0. DC Moteba Pembe a perdu 2 buts à 1 face à Alkartou Mouattani mais est qualifié quand même suite au match nul à l'aller 3 buts partout. Sfaxien face à Paradou 0-0, qualification du Paradou après la victoire au match aller 3 buts à 1. Et Djoliba face à Maranatha. Un but partout, qualification du Djoliba suite à la victoire au match aller, 3 buts à 2.
Voilà, donc résultat complet. Hein. Doyen Willy, on va peut-être revenir un peu sur la Ligue des Champions concernant un peu, encore une fois, parce qu'on parlait tout à l'heure et Christian Chango l'a dit, Hakim aussi, et quelquefois c'est peut-être l'incompétence de la CAF qui fait que on se retrouve dans des situations où c'est complètement difficile. On a parlé de Oroya qui devait jouer à quelques kilomètres donc d'Alger à Tizi Ouzou, mais cette fois c'est l'équipe de Génération Foot qui à la limite n'a pas joué. Christian Chango,
oui,
les affaires.
Oui, on va juste rappeler les faits. Donc il y avait ce match entre Zamalek et Génération Foot qui devait se jouer samedi. Il y a eu un décalage du match de 24 heures du samedi au dimanche et la délocalisation du côté d'Alexandrie. Donc le club sénégalais était prévenu au dernier moment et donc l'équipe de Génération Foot a refusé de jouer le match tout simplement. Ils ne voulaient pas cautionner qu'ils soient prévenus de tous ces changements au dernier moment sans être mis au courant bien plus tôt puisque c'est toute une préparation et on sait très bien que c'est tout un travail qui est fait en amont pour se préparer, pour se mettre dans les conditions. C'est un match retour, c'est un match en jeu et Génération Foot s'est senti floué, donc ils ont tout simplement décidé de pas aller jouer ce match là donc voilà, on va avoir un peu plus de détails avec peut-être Monsieur Mbaye. Donc voilà où on en est un peu du côté de ce match-là entre Zamalek et Génération Foot.
Oui, le match a été convoqué au Caire. Mm-hmm. Donc je ne veux pas pourquoi au dernier moment on déplace le match sur Alessandrie, même si on évoque des problèmes politiques, ça ne concerne pas le Génération Foot. Donc ou bien les Égyptiens perdent le match sur le tapis vert, mais je ne sais pas pourquoi la CAF cautionne ce changement à la dernière minute. C'est ça le problème même, que la CAF cautionne ça.
Oui, en plus, sur les résultats qu'on a eus, il est bien noté que Génération Foot a été éliminée par forfait. Alors, exactement où étaient les arbitres.
Sachant qu'ils se sont rendus au stade et tout, ils ont été accompagnés d'un avocat, ils se sont rendus, l'enceinte du stade international au Caire était fermée. Donc, voilà.
C'est moi je trouve ça vraiment un petit peu exagéré, c'est-à-dire effectivement comme le dit Willy, Christian a rappelé bien sûr l'ensemble des faits. Je pense qu'à un moment donné la CAF, enfin faut vraiment qu'elle prenne des décisions claires et plutôt qu'elle soit, on va dire,
à la botte
limpide et puis direct, parce que là on a l'impression que il y a des prises de décision qui sont faites par des clubs, par des
et surtout les clubs du Maghreb, ben c'est bizarre ça, non?
Non, j'ai pas dit ça. et du coup effectivement ça met un petit peu dans la difficulté Génération Foot qui est, on le rappelle, dans cette phase, le seul club, si je ne m'abuse, sénégalais, qui est en course pour une qualification.
Une qualification. Mais écoutez, on va en discuter un peu avec Dembambaye qui est l'ex-entraîneur de Génération Foot, qui maintenant il va nous dire ce qu'il est devenu parce que il a quand même voyagé, il est dans un autre club, mais on va en discuter pour nous dire parce qu'il a. Il a cette expérience, il a vécu quand même certaines choses avec Génération Foot. Ouais. Alors, si vous êtes supporter aussi du Sénégal, n'oubliez pas, je veux dire Génération Foot, bien sûr, du Sénégal. Est-ce que pensez-vous de cette décision de la CAF de changer le tout à la dernière minute et on se retrouve dans ce genre de situation. Demba, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous allez bien ? Alors dites-nous tout, vous.
Très bien, merci.
Mais vous, alors quand vous attendez du côté de Génération Foot pour livrer cette Ligue des Champions, mais vous vous retrouvez tout simplement au fils du Maroc.
Eh bien, il a été...
Oui, il a été pris, c'est bien. J'ai effectivement quitté mon poste à Génération Foot. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'exerce ma profession au sein d'un club marocain, le FUS de Rabat.
Bravo.
Donc, je suis. Merci. Je suis aujourd'hui directeur du pôle performance. Et donc, effectivement. J'ai estimé que c'était une bonne opportunité de continuer à apprendre mon métier dans un autre pays, un grand pays de football, puisque quand on regarde ces dernières années, on s'aperçoit effectivement que les clubs marocains sont très performants en Afrique. Et donc, j'ai saisi cette opportunité de continuer l'apprentissage de mon métier dans ce pays, dans ce merveilleux pays qu'est le Maroc.
Alors, comment ça se passe ? Alors, le FUS, c'est... Vous n'êtes pas qualifié, je regarde mes notes, il n'y a pas de qualification.
Oui, non, il n'y a pas de qualification en Afrique, mais ce qui est très intéressant, c'est le niveau du championnat marocain. C'est un championnat de bon niveau, avec de très bonnes infrastructures, avec une organisation qui est, de mon point de vue, quand même très, très, très professionnelle, même si tout est perfectible dans la vie. Mais... aujourd'hui, c'est une super expérience pour moi et c'est aussi un peu pour ça que j'ai décidé de saisir l'opportunité au rebond.
Alors, ça consiste en quoi, le pôle performance ?
Bah, disons que c'est un outil supplémentaire qui permet en fait au club de se doter d'un dispositif qui va permettre, qui va faciliter du moins... l'apprentissage des jeunes joueurs pour leur faire passer rapidement le gap entre le niveau formation et le niveau professionnel. Donc l'objectif, la mission, c'est d'accélérer la formation des jeunes pour leur permettre d'arriver le plus rapidement possible en équipe professionnelle.
Hakim.
Demba Baye, salut, c'est Hakim Djelouad, j'espère que tu vas bien.
Bonjour Hakim.
Un plaisir de t'avoir avec nous et puis de suivre ton parcours parce que c'est également, sans faire de jeu de mots, une belle performance de passer effectivement d'un championnat sénégalais au championnat nord-africain. Comment on t'a accueilli ? C'est ma première question. Et ma seconde question, quelle est la différence que tu as pu percevoir les premières semaines par rapport au football sénégalais ?
Oui, donc pour revenir sur la première question, j'ai été très très bien accueilli. Le FUS de Rabat est un club très bien organisé. C'est un club géré par des intellectuels, hein, des dirigeants qui ont une vision et qui ont envie de se donner les moyens de dérouler cette vision. Et ensuite, pour répondre à la deuxième question, la différence notable que j'ai pu observer, parce que ça fait maintenant, je suis là depuis le mois d'août, c'est vrai que en termes de moyens investis dans le football, effectivement, il y a une très grosse différence avec le Sénégal. Et aujourd'hui, on peut tourner dans tous les sens. C'est vrai que pour avoir un football performant, il y a besoin d'avoir des moyens, des infrastructures, mais aussi de la suite dans les idées, c'est-à-dire avoir un plan de développement qui permette au football de grandir et d'être performant. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est le cas du Maroc, parce que, comme je le disais tantôt, effectivement, quand on regarde sur les 3-4 dernières années, on voit une prédominance quand même des clubs marocains dans les compétitions continentales.
Doyen Willy.
Oui, Monsieur Demba, c'est-à-dire que moi, je connais le niveau actuel du football marocain qui est en très bonne santé. Donc moi, ça me fait plaisir déjà qu'ils fassent appel à vous. Mais comment ça s'est passé ? Parce que les Africains n'aiment pas trop faire appel à des coachs africains. En majorité ou bien en général, mais faire appel à un grand pays de football à l'heure actuelle en Afrique qui fasse appel à un Sénégalais, moi ça me fait plaisir. Comment ça s'est passé alors ?
Je pense que les dirigeants du FUS n'étaient pas forcément à la recherche d'une nationalité, mais plutôt de compétences. Et ayant pas mal d'expérience dans la formation de jeunes joueurs, j'ai aussi eu à être un entraîneur qui a lancé beaucoup de jeunes sénégalais, puisque vous n'êtes pas sans savoir que à Génération Foot, chaque année, on dispute les compétitions africaines avec des équipes très jeunes.
Ouais.
Et la base de l'équipe, souvent, est composée de joueurs qui sont encore juniors. Donc ouais. Je pense que c'est peut-être ça qui les a interpellés et qui a permis, je dirais, la mise en lien entre ce club-là et moi-même.
En tout cas, c'est intéressant pour l'Afrique.
Oui, bonsoir Demba et félicitations pour ce transfert. Donc le mercato aussi, c'est du côté des joueurs, mais des entraîneurs aussi.
On n'a rien touché nous.
C'est vrai les gars. Attends, mince alors. Non mais déjà plus sérieusement félicitations. Et continues de suivre, ma question est toute simple, parce que tu continues de suivre bien sûr ton ancienne équipe, tes anciens poulains, et vraiment, et par rapport au Maroc, quels sont tes objectifs là maintenant que tu es en place là depuis le mois d'août, quels sont tes objectifs à titre personnel pour la suite?
Ben, mes objectifs sont très simples. Comme je l'ai dit, je pense que quand on est un jeune entraîneur, il faut être capable de relever certains défis, de sortir un peu de son confort. Et cette démarche de venir dans un pays étranger avec une langue étrangère, je dirais, m'a semblé logique parce que c'est ce qui pourrait garantir par la suite mon évolution. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'ambition de devenir un entraîneur à dimension africaine. Et pour ce faire, ben, il faut aller aussi chercher de l'expérience dans d'autres pays africains.
Alors, on va aller du côté du Standard. Mupungi, Alou Mupungi. Bonsoir.
Bonjour.
Oui. Alors, on vous écoute. Bonsoir.
Ouais, bonsoir. Ça va, ouais.
Oui, ça va.
Moi, je voulais dire seulement pour les Mazembe et le Fair Club, là.
Oui.
Ils ont fait vraiment de bons résultats pour la République démocratique du Congo.
Ouais.
Ils ont battu l'équipe de Malgache 3-0. Le fait que les ils ont battu l'équipe de Togo 5-0.
Uh-huh.
Là, vraiment, nous sommes contents pour notre football. C'est pour cela que nous encourageons vraiment les équipes congolaises d'aller vraiment loin dans cette compétition. Ouais.
D'accord. Mais écoutez, on a bien compris, Alco.
Je voulais dire aussi... il y a mon fils Issou qui vous dit bonjour parce que lui aussi joue au foot.
Uh-huh.
Donc il est vraiment fanatique de votre émission.
Ah, merci.
Fais un coucou.
Comment il s'appelle?
Chris Mupungi.
Chris Mupungi. Il a les pieds de Jésus.
Ouais, il a les pieds de Jésus.
Moana Kitoko.
Ouais. Merci Alco, merci d'être venu sur la radio africaine. Demba, alors justement, on a parlé tout à l'heure, Christian Chango a bien fait de vous poser la question. Est-ce que vous avez des nouvelles de Génération Foot? Est-ce que vous les suivez?
Oui, je les suis. Génération Foot, ça reste mon club de cœur.
Uh-huh.
Je garde d'excellentes relations avec le président Madi Touré, avec mes anciens joueurs aussi, avec mes anciens collaborateurs. Donc forcément, je suis avec attention leur parcours en Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des informations que j'en ai, la situation me paraît quand même ubuesque.
Ouais.
C'est vrai que Génération Foot a refusé de jouer, mais je pense qu'ils sont dans leur bon droit, puisqu'il y a quand même un règlement sur lequel ils s'appuient. On ne peut pas changer la tenue d'un match international à 24 heures de sa tenue,
mm-hmm. Ça,
c'est impossible. Et en plus, dans une ville qui était à plus de 200 km, donc effectivement, il me semble, à vue de nez comme ça, qu'il pourrait y avoir connivence entre les entre la CAF et
le club. Justement, c'est ce qu'on disait. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de la CAF? Bon, la CAF dit actuellement, la Confédération africaine de football dit, ok, on va étudier le problème et puis on va décider. Alors, mais pour le moment, c'est bien une lettre dont se prévaloit l'équipe de Zamalek pour dire que non, nous on a demandé en temps et en heure de faire le match à Alexandrie.
Il me semble que les textes disent qu'il faut prévenir 10 jours avant. Donc, je pense que si le Zamalek avait fait cette démarche-là, non seulement la CAF aurait adressé un courrier à la Fédération sénégalaise, qui elle-même aurait répercuté l'information auprès de Génération Foot. Donc,
ouais.
En l'absence de ce circuit, je pense que effectivement, les propos du Zamalek sont au mieux tendancieux. Voilà, je ne veux pas dire qu'ils mentent, je dirais que voilà, ce sont des propos tendancieux. Ensuite, derrière, comme il y a un règlement et que ce règlement n'a pas été appliqué, je connais assez la détermination du président Madi Touré. Je pense qu'il n'hésitera pas à aller jusqu'au bout de tous les recours judiciaires possibles. Je pense qu'il va aller devant le TAS. Et il me semble que devant le TAS, bien évidemment, la décision initiale de la CAF ne tiendra pas.
Alors, Hakim, moi je me méfie vraiment de certaines décisions de la CAF, hein, parce qu'on a bien vu, tout à l'heure on en discutait avec notre correspondant de Guinée, vous n'étiez pas encore là, c'est quand même, le Oroya est allé jouer à Alger, devait jouer à Alger, on les a ramenés
à Tizi Ouzou.
À Tizi Ouzou, hein.
Oui, Lamine, d'après ce qui s'est dit en fait sur l'affaire du match Zamalek Génération Foot, ça ressemble effectivement à la rencontre entre Oroya et la GSK. Pour le match qui a été délocalisé du côté de Tizi Ouzou au lieu d'être joué à Alger. Mais il semblerait en fait que dans cette affaire, il y a eu effectivement quelques rencontres qui ont été jouées dans le stade où devait avoir lieu officiellement la rencontre entre Génération Foot et le Zamalek. Mmh. Il y a effectivement une demande qui a été faite par Génération Foot pour demander pourquoi le match est délocalisé, alors que logiquement il ne doit pas effectivement être délocalisé, mais il semblerait qu'il y ait des matchs de championnat, coach Lamine, qui avaient été joués dans le stade effectivement du Zamalek.
Le même jour.
Le même jour. D'où le fait, coach Lamine, que la rencontre ait été jouée effectivement hors du stade où le match devait avoir lieu. Alors là. On dit aussi que la situation sécuritaire, elle a probablement aussi été écartée, coach Lamine, par rapport à la requête de Génération Foot, qui dit que, effectivement, et ils sont dans leur droit, que par raison de sécurité, en fait, on a voulu protéger nos joueurs, etc. Donc, on pose une réclamation et c'est tout à fait légitime. Ouais. Là, l'affaire, pour l'instant, elle est encore dans les mains de la CAF. Le dossier est encore en cours d'instruction, d'étude, et en attendant de savoir la suite. Mais je pense que Génération Foot est en droit de poser une réclamation, parce que on ne peut pas changer du jour au lendemain une rencontre qui a lieu dans un stade.
Moi, je vous dis.
Ça pose après des problèmes logistiques. Ouais.
Exactement.
Mais moi, je vous dis, vous verrez, connaissant la CAF. Ben, ils vont donner gain de cause à l'équipe égyptienne.
Oui, mais c'est pas parce,
oui, parce que Zamalek, ouais, mais Zamalek est une grosse écurie, mais même si la CAF donne gain de cause aux Zamalek, la CAF sera forcée par le tribunal arbitral du sport pour revenir sur sa décision. Donc, ça va créer un précédent qui va les mettre en difficulté pour le reste de la compétition.
Tout à fait.
Oui, mais il y a d'autres précédents. Déjà, à cette CAF-là, la nouvelle, je dis. Donc, il y a d'autres précédents. Par rapport, parce qu'il y a des choses que moi, je n'ai pas envie de dire, parce que je n'ai pas de preuves, mais il y a des tendances qu'on voit là, depuis que la nouvelle CAF, là, sans notre ami. Donc, moi, je...
Notre ami, c'est qui? En tout cas. Christian Chango, oui.
Oui, non, mais c'est un peu flou tout ça. Et malheureusement,
c'est un peu bizarre.
Il y a beaucoup de décisions de la Confédération africaine actuellement qui posent problème.
C'est ce que j'ai dit, en fait. C'est que là, avec la nouvelle présidence, on avait dit qu'on essaierait de repartir sur une transparence et sur une situation, sur une gouvernance beaucoup mieux et beaucoup plus professionnel que la gouvernance de votre ami Monsieur Ayatou,
qui n'est plus en place. Oui. On confirme.
Et là, force est de constater que sur ces derniers mois, entre la finale de la CAF, des problèmes Lavar, là il y a quand même
ça se multiplie.
Le pire, c'est de jouer la CAN en juin.
Il y a plein de faits, mais c'est le pire. Sur les décisions prises pour les organisations de la CAN. Donc là, on cumule un peu beaucoup de casquettes, on cumule beaucoup de boulettes en très peu de temps de gouvernance. Ce n'est qu'à lui de changer tout ça pour que ça aille mieux.
On va prendre Godet du Standard, s'il vous plaît. Godet, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir.
Oui, bien, vraiment, merci de m'avoir donné la parole. Je voulais juste dire, parce qu'en fait, moi, j'aime bien intervenir dans l'émission, j'aime aussi bien écouter, vous suivre. Mm-hmm. Mais dès que vous parlez de la CAF, ça me donne la nausée.
S'il vous plaît.
La CAF, franchement, la CAF, je ne sais pas pourquoi vous parlez de la CAF, parce que je n'ai jamais... Parce qu'une fois même, il y avait Pape Diouf qui était invité à l'émission.
Oui.
Et je lui avais posé même la question... je voulais savoir qu'est-ce qu'il attend pour se postuler en tant que président de la CAF. Mmh. Je me pose la question aujourd'hui, où sont partis les Bell, les Petit Pelé, les Roger Milan?
Mais ils sont virés de la CAF.
Ils ont déjà été virés de la CAF. Ils ont déjà leur fédération à gérer aussi, c'est pas évident.
Les Jafet Ndoram et tout ça, ce sont des gars qu'on avait pris à la CAF, on les a tous virés.
Mais pourquoi on peut les virer? Ils doivent être là.
Parce qu'ils empêchent de tourner un rond. c'est tout.
Oui, parce que je ne comprends pas comment un dirigeant de la CAF gère la fédération comme si c'était un, comme le plus vaste. Je ne comprends pas. Bon. Et en plus, moi, je pense que vous parlez pas assez de ça.
Oui,
parce
mais...
que si vous mettez un peu la pression, ouais, peut-être ça va changer. Parce que l'autre fois, il y avait comment on appelle, Patrick Bouma qui était invité.
Ouais. Oui.
Il avait même posé la question sur Willy Sagnol, mais j'avais senti qu'il était un peu gêné. Parce que moi, je pense que les gens qui sont en contact avec les dirigeants du football, ils parlent mal de l'Afrique. Ils nous défendent pas bien. Parce que nous, on n'a pas cette possibilité-là de parler avec ces dirigeants-là. Mais eux qui sont là, les
anciens joueurs, pas, les anciennes gloires du football africain, vous voulez dire, c'est ça? Eux ont un pouvoir et on n'a pas.
La radio, c'est aussi fait pour ça. C'est-à-dire, on n'est pas là pour s'énerver, pour imposer, pour
mais vous, avez le droit de vous énerver, par contre.
Mais ce que je veux vous dire par là, c'est, vous allez me comprendre, c'est aussi un moyen, la radio, de pouvoir s'exprimer, de présenter ses idées, de donner son opinion, bien sûr avec respect, parce qu'on le fait, vous le savez très bien, comme toute l'équipe qui est ici et comme tous les auditeurs qui nous écoutent, on donne souvent la parole, on partage souvent le micro pour pouvoir justement s'exprimer avec bienveillance, en donnant effectivement ses idées et en présentant son opinion.
Ouais, mais
vous avez le droit.
Ouais, mais monsieur, oui, mais à vous écouter.
C'est très gentil.
Ouais.
C'est très gentil, vous parlez gentiment, parce que c'est comme quand on parle, par exemple, des Africains, les gens qui sont dans l'opposition, ils parlent gentiment du le pouvoir gentiment.
Oui, mais à nous écouter. À vous écouter, j'ai l'impression que vous êtes un auditeur assidu. Donc ça fait longtemps qu'on en parle. Et si vous m'écoutez, moi, Willy Dorkenou, j'ai prédit tout ce qui arrive là. Je l'avais dit à un moment donné que tout ça allait arriver. Parce que la nouvelle direction de la CAF, moi je sais de quoi ils seront capables.
Puis on a eu aussi Lamine Badiane, Willy Dorkenou, Christian Chanon, on a aussi l'avènement de Fatma Samoura qui avait été effectivement qui avait été programmé pour pouvoir justement instruire un petit peu la Confédération africaine de football après la Coupe d'Afrique des Nations, au déboire qu'il y avait eu un petit peu avant l'organisation, le déplacement du Cameroun à l'Égypte, etc.
Mais là, on est encore en train de repartir là, parce que Ahmad est en train de poser des problèmes quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Parce qu'il considère que le Cameroun n'est toujours pas prêt.
Mais ce qui m'effraie dans cette organisation, vous savez ce qui m'effraie, moi?
Non.
C'est-à-dire qu'on risque de faire les CAN tous les 4 ans. Et c'est un danger. Mais c'est un danger pour le football africain.
C'est un danger.
Il faudra qu'on puisse lui donner la parole. Il faudra qu'on puisse lui donner la parole.
En tout cas, merci Godet d'être venu sur la radio africaine.
Il faut plus de 2 heures. Il faudrait vraiment une émission spéciale juste pour ça. Parce que le dossier est déchargé.
Exactement.
Même 10 ans.
Demba, alors, donc finalement, en tout cas, nous, on vous encourage. On essaie de. Vraiment, bravo. Bravo.
Ouais.
Ce qu'on souhaite pour vous, c'est que peut-être demain, bon, on veut pas le dire, que le fils de Rabat soit en Ligue des champions et entraîné par... Bon, vous avez compris.
Mais bonne chance en Botola, en tout cas, vraiment le meilleur, le meilleur pour vous, coach.
Merci beaucoup.
On vous suit de très près sur la radio africaine et dans Tout Foot.
Depuis longtemps.
En tout cas, ça c'est clair et net, quoi. En tout cas, merci beaucoup.
On est ensemble.
Merci d'être venu sur la radio africaine et puis merci, on vous encourage encore une fois. On vous encourage.
Bravo.
Bravo. Christian Chango, alors donc, dans quelques instants, on va entamer le troisième débat. Alors ce débat-là, vous le connaissez, c'est peut-être le débat concernant un peu cette fameuse...
La FIFA, le trophée
quand
avec.
C'est bizarre quand c'est pas la CAF, c'est la FIFA.
Avec Mohamed Salah, avec toute l'équipe, du coup. Donc là, oui, c'est.
Ça a un lien.
C'est connecté, hein. C'est connecté, c'est ça.
Très, très connecté.
Mais je vous propose de revenir après la pause.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Sur Africa Radio avec Christian Chango, le doyen Willy Dorkenou, Hakim Djellouat, et puis bien sûr. L'homme de la Liga espagnole, la meilleure ligue espagnole, el mejor de rien du tout.
De nada.
De nada, el mejor de nada. El mejor de nada. Des gars qui viennent prendre 3-0 ici et qui nous disent après que c'est la meilleure ligue et tout ça. Alors, on va entamer ce débat. On a à peu près une demi-heure, 0155 07 58 00. Et si vous voulez nous appeler depuis Abidjan, depuis Tambacounda, c'est le 33 7 66 19 77 69, bien sûr. Allons-y, c'est parti.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Van Dijk, c'est quoi votre préféré?
The best one for me is Mohamed Salah, Sadio Mane, but he's not here.
Thank you.
Voilà, c'était vraiment une déclaration qui a eu combien de vues au moins?
Honnêtement, ça fait plus
de 5 000 vues.
Ouais. Ça a fait millions. Parce que ça a fait le buzz. Cette soirée, elle a été mondialement suivie. Et ce qui est ressorti de cette soirée, quand on regardait sur les réseaux sociaux notamment, on voyait que ce qui ressortait en premier, en numéro un, c'était les propos de Samuel Eto'o qu'on vient d'entendre, à qui les journalistes qui animaient la soirée ont posé la question entre les trois nommés de finale, entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Virgil van Dijk, qui étaient les meilleurs. Et on a entendu Samuel Eto'o répondre en anglais que c'était Sadio Mané et Mohamed Salah, mais qu'ils n'étaient pas là.
Ah, voilà. Donc les meilleurs n'étant pas là, et même pas dans le classement final.
C'est ça,
donc,
exactement. C'est ça. On va juste rappeler les résultats. Ouais. Donc là, c'était le trophée de la FIFA, The Best. Donc ça part de juillet 2018 à juillet 2019. Donc tu l'avais précisé la semaine dernière, on le redit. Donc il y avait 4 collèges qui votaient, le public, les sélectionneurs, les capitaines et les journalistes qui votaient à parts égales. Ça avait le même impact, le vote. Et donc, les trois finalistes, donc on l'a dit, c'était Van Dijk, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui a remporté le trophée. Donc, Messi premier, Van Dijk deuxième, Cristiano Ronaldo troisième, Mohamed Salah quatrième, Sadio Mané cinquième et Kylian Mbappé sixième. Bon. Donc, Messi a remporté le vote du public devant Ronaldo, le vote des sélectionneurs devant Ronaldo, le vote des capitaines des sélections devant Van Dijk, et Van Dijk, lui, a remporté le prix avec les journalistes devant Messi. Donc, du coup, c'était insuffisant. Donc, autour de ce sacre, on en a entendu parler, coach, les absences remarquées de Sadio Mané et Mohamed Salah, et aussi, surtout, dans l'équipe type, dans le 11 type de l'année, on a vu aussi l'absence de Sadio Mané, de Mohamed Salah. Au niveau de la défense aussi, lui, on n'en a pas beaucoup parlé, mais son nom est ressorti, c'est Kalidou Koulibaly, qui n'était même pas dans les 30. Donc son nom aussi est ressorti. Donc c'était un peu pour ouvrir le débat sur qu'on a déjà bien ouvert sur ce plateau, sur la reconnaissance.
Ça s'est passé depuis la semaine dernière, mais ça continue.
Ça continue.
Alors aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce que, comme à la CAF, est-ce qu'il y a eu tricherie pour nommer Lionel Messi? Est-ce qu'on n'aime pas les joueurs d'origine africaine ou africain ou je ne sais pas quoi, etc. Ouais. En tout cas, quel est réellement le problème des footballeurs africains?
Juste avant de vous donner la parole, pour ajouter des précisions, donc autour de cette élection, il y a eu quelques suspicions, puisqu'il y a eu des votes qui ne sont pas arrivés. On a vu notamment la fédération égyptienne. Le vote n'est pas passé, soi-disant parce que la FIFA a reçu les votes, mais comme c'était écrit en lettres capitales, ils n'ont pas pu les recevoir. On a aussi notamment le
capitaine du Nicaragua.
Voilà, c'est ça. On a le sélectionneur du Soudan, qui lui avait voté pour Mohamed Salah en premier, Sadio Mané en deuxième, Kylian Mbappé en troisième, photo à l'appui que j'ai devant moi. Et bizarrement, son vote que j'ai là avec les résultats, son vote s'est retrouvé Messi, Van Dijk et Mané. Alors que lui atteste. Donc il y a plein de couacs comme ça.
Et puis il y a des capitaines africains qui n'ont pas voté pour les Africains.
Exactement.
Ouais. Donc ce que tu disais tout à l'heure, doyen, alors on te donne la parole.
Ok, et j'ai commencé par banaliser, c'est-à-dire que pour qu'on t'appelle monsieur, il faut que toi-même tu saches que tu es un monsieur. Donc le problème des Africains, c'est quoi? Donc, on est dans une période, ou bien dans un siècle de communication, et tout est hégémonie, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en avant. Donc, il y a des choses qui se passent au niveau des Africains, par rapport aux Brésiliens, par rapport aux Argentins, par exemple, parce qu'eux, ils défendent leur image. C'est une question d'image. C'est-à-dire que quand vous transformez le football africain en un football d'exportation comme le café et le cacao, c'est-à-dire que dans toutes les maisons en Afrique, se transforme en académie avec trois ballons et qu'il n'y a plus de football sur le continent. Mmh. OK? Quand il y a la Coupe du Monde à 32 et que vous êtes 5 et que vous ne dites rien, les Africains vont finir par croire qu'ils n'ont pas un bon football. Moi, je voyage énormément dans le monde entier. Quand je vais au Brésil, je suis reçu comme un roi. Parce qu'ils savent que je viens du continent, un grand continent de football, sauf les dirigeants du football africain qui ne savent pas, parce qu'eux, ils sont d'une incompétence criarde.
Allez, n'allez pas énerver le doyen Uli. Hein.
Je ne suis pas énervé, je suis en train de brosser le tableau qui fait qu'on n'est pas respecté. Mais c'est tout.
Mais donc, c'est une autre forme. Donc, ce n'est pas, c'est nous qui ne sommes pas, nous ne faisons pas respecter. Oui. Mais ce n'est pas ce vote-là où il y a eu peut-être une tricherie pour
l'Afrique,
Messi.
On parle de la FIFA, non? Oui. On veut critiquer la FIFA. Or, le continent est majoritaire au niveau de la FIFA. On a 54 pays, l'Europe a 50 pays. Mmh. On peut diriger la FIFA si on veut. Tu comprends?
Oui.
Mais comme nous, on revend nos voix à chaque fois. Mais, OK, mon ami Ayatou avait appelé à voter pour M. Johansson en 2006 pour que le Maroc ait la Coupe du Monde en 2006. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 98, à Ouaga, les Africains ont vendu leur voix à Blatter. Et Blatter a donné la Coupe du Monde à son pays, ou bien à son ami, les Allemands, en 2006. Parce qu'on a vendu nos voix. Si on veut diriger la FIFA, on peut. Parce qu'on est 54 pays. La CAF est 54 pays. Donc c'est le continent le plus... on a plus de voix.
Mmh.
Mais pourquoi on ne dirige pas la FIFA? C'est parce qu'on revend nos voix, comme d'habitude.
Adama Sourabié.
Oui, Coach Lamine. Bonsoir.
Bonsoir. Et tu es où? Tu es dans les toilettes ou quoi? Ça résonne là.
Non, j'ai été pris de court. J'ai même dit à Hélène que j'avais carrément blasé que nous étions lundi.
Ah ben dis donc.
Et c'est vrai que le débat il est très très bien animé. Et moi, je peux vous dire que même du côté de l'Espagne, voilà, les connaisseurs du football se sont posés des questions sur cette cérémonie The Best. Mais moi, je dirais The Bad. Voilà, excusez-moi du terme. Voilà. Puisque on ne peut pas comprendre que Mané et Salah ne font pas partie de l'équipe type de la saison. On ne peut pas croire que les nominés soient encore les mêmes qu'on connaît. Qu'on a connu la baisse des formes de ces footballeurs. On ne reconnaît pas la valeur de nos Africains qui ont disputé en deux années consécutives deux finales de la Champions League, s'il vous plaît. Ils en ont perdu une finale, ils ont remporté une.
Mmh.
On ne vous parle pas de 3 ans, on vous parle pas de 5 ans, les deux dernières années. Mais ces deux garçons ne font pas partie parmi les meilleurs. Le football africain est reconnu à sa juste valeur quand on nous exploite sur les terrains de football. Mais quand il s'agit de nous donner une valeur, je pense que j'ai un cri de cœur envers nos autorités africaines qui dirigent le football africain.
Ouais.
À un moment donné, il faut dire basta.
Ouais.
Il faut dire basta, puisque c'est un déshonneur vis-à-vis, je ne vais pas dire le mot, l'homme noir. Arrêtons, il est temps. Si les autorités africaines de football peuvent entendre ce soir notre débat, qu'ils sachent que nous les Africains, nous sommes blessés. Nous sommes blessés parce que c'est du mérite. Ces deux garçons, Salah et Mané, c'est vraiment une manière de tuer le travail de ces garçons et le travail des autres Africains qui vont se dire, on a beau se battre, on ne pourra jamais arriver à devenir un ballon d'or, on ne pourra jamais arriver à devenir meilleur prix FIFA.
Okay.
Oui, où ils sont nos dirigeants du football africain?
Ok, on a compris. On vous revient, Adama. Hakim, j'ai dit Hakim, Christian.
Oui, juste avant de passer la balle à Hakim, je vais juste donner, puisque j'ai tous les votes avec moi, là, juste quelques petits votes par-ci, par-là.
Il faudrait qu'on les dénonce, là, ceux qui n'ont pas. Allons-y.
Je vais donner le vote, là, le premier que j'ai devant moi, là, c'est Messi. Messi a voté en numéro 1 pour Mané, en numéro 2 pour Ronaldo, en numéro 3 pour De Jong. Riyad Mahrez, capitaine de l'Algérie, a voté en numéro 1 pour Messi, en numéro 2 pour Sadio Mané, en numéro 3 pour Mohamed Salah. Je vais prendre par exemple Charles Caboret, comme on a Adama avec nous, Burkina ouais. Faso. Il a voté pour Cristiano Ronaldo, Van Dijk, Messi. Ensuite, je vais vous donner.
Vas-y,
faut poursuivre.
Continue. Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, Cristiano premier, Hazard deuxième, Messi troisième. André Ayou, capitaine du Ghana, Cristiano Ronaldo premier, Messi deuxième, Hazard troisième. Je vous donne le capitaine du Mali, Diaby Abdoulaye, Mané premier, Kylian Mbappé deuxième, Hazard troisième. Au niveau, par exemple, du Nigeria, Ahmed Moussa, qu'on a vu cet été du côté de l'Égypte, Messi en premier, Cristiano en deuxième, Salah en troisième. Deux derniers. Cherou Kouyaté, Sénégal, en premier, Lionel Messi. Non, je plaisante. Sadio Mané en premier, Van Dijk, Messi en troisième. Le Togo, Djéné Dakonam, pardon si j'ai mal prononcé. Mané en premier, Messi en deuxième, Cristiano en troisième, Wabi Kazri, capitaine de la Tunisie, Cristiano, Mbappé, Mané. Voilà, ça c'est juste pour quelques capitaines. Après, je pourrais vous donner les sélectionneurs. Juste Jamel Belmadi, champion d'Afrique, Salah, Mané, Van Dijk. Voilà pour un des sélectionneurs.
Est-ce que nous-mêmes, les Africains, nous nous aimons?
C'est ça. Et le coach du Burkina aussi.
Le coach du Burkina.
Monsieur Firmin Sanon, Messi, Van Dijk, Mbappé.
C'est pas une question de Burkina Faso.
C'est qui?
Pas le coach Firmin Sanon.
Ah, d'accord. C'est bien. Alors tant mieux, puisque là, on apprend que.
C'est qui?
Voilà.
C'est qui?
Firmin Sanon, c'est l'adjoint au sélectionneur de Burkina Faso. Il n'a jamais été sélectionné
d'accord.
de Burkina Faso jusqu'à l'heure à laquelle je vous parle.
Ok, très bien.
Alors, All Standard 01-55-07-58-00, on a Abouchou. Abouchou, bonsoir.
Coach Lamine, juste une petite pensée au deuxième bonsoir, vice-président de Mazembe, Mohamed Kamwanya, qui est décédé ce lundi. On pense à lui, à toute sa famille.
On lui dédie cette émission.
Toutes nos condoléances à... Au deuxième vice-président du Mazembe, du tout-puissant Mazembe, qui est décédé, Mohamed Kamwanya.
Ok. Oui, Abdouchou, on vous écoute.
Oui, allô, oui, bonsoir. Oui. Ah, franchement, non, c'est... Là, on voit que vraiment, le continent africain, franchement, d'après ce que j'ai entendu au niveau des votes, là, vraiment, on n'est pas... On est en manque de solidarité, parce que là, même, la capitaine du Ghana ou du Burkina, qui disent qu'ils mettent Van Dijk en premier, Cristiano Ronaldo ou Messi, ça dit que vraiment ils suivent pas vraiment beaucoup les statistiques de Sadio Mané et Salah, en sachant que Sadio Mané et Salah, ils ont tout gagné quoi. Ils ont gagné la Super Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, ils ont été meilleurs buteurs en Angleterre, tout.
Oui.
Ils vraiment en termes de statistiques, ils ont tout gagné.
Bon,
alors, oui,
c'est ça.
Abdouchou, aux deux extraterrestres.
Abdouchou,
Messi et Cristiano.
Abdouchou, l'autre fois, et c'est toi qui aimais beaucoup la VAR et compagnie. T'as vu que pendant la CAN, lors de la CAN, on a eu un instructeur français, c'est-à-dire que la Coupe d'Afrique, la CAN, a vu le jour en 1957. Et que l'Europe a joué en 1960. C'est-à-dire que trois ans avant eux, on avait la CAN. Et maintenant, on attend des instructeurs, des gens qui viennent après nous. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire qu'il faut avoir une culture de soi. C'est-à-dire qu'il faut connaître la valeur intrinsèque du football africain. Je ne parle pas des stades, de la VAR, des trucs.
Mais moi, j'aimerais bien vous poser une question.
Le problème, c'est que même les dirigeants européens, ceux qui travaillent à la CAF,
ouais.
Eux-mêmes, la CAF, est-ce qu'ils connaissent vraiment la valeur du football africain?
Non, ils sont d'une incompétence.
Je crois qu'il y a une chose quand même qui est très importante. Il y a une chose qui est très importante. On se rend compte que par rapport à ce vote-là, on doit se poser des questions. Est-ce que les footballeurs regardent les matchs de foot?
Ils ont une culture de foot, c'est ça?
Non.
Mais regardez quoi.
Est-ce qu'ils suivent les matchs de foot?
Je veux dire que
ils se basent. Tu as l'impression que ces votes-là, ce sont des votes de connaissance. On sait que Messi, oh là là, tout le monde parle de Messi. On sait que Cristiano Ronaldo, oh là là, Cristiano Ronaldo. Mais un gars qui est au fin fond de ce Mané, ouais. Qu'est-ce que ça lui rapporte,
ouais, mais derrière,
quoi? Non, mais attendez, je vais finir.
Oui.
Mais derrière Mané, est-ce que Mané a fait une communication telle? Est-ce que Sadio Salah a fait une communication telle? Est-ce que
voilà,
est-ce que
derrière, donc, c'est votre...
faut pas non plus croire que c'est nous-mêmes,
oui,
qui on est en train de pleurer,
mais
sur notre sort.
Est-ce qu'ils doivent jouer sur la communication, déjà qu'ils jouent assez beaucoup sur le terrain,
mais qui voit la Ligue des Champions?
En parlant de Mohamed Salah, Sadio Mané, je pense qu'à un moment donné, c'est-à-dire faut aussi appeler un chat, donc il méritait effectivement d'être dans cette liste des meilleurs joueurs de l'année,
est-ce que la fédération égyptienne a voté pour lui?
La fédération égyptienne, bah le vote n'est pas apparu, du coup. La fédération égyptienne, dans les votes, ont mis en premier Sadio Mané, en numéro 2 Mohamed Salah.
Faut pas oublier qu'ils ont quand même fait une grande saison. Ils remportent la Ligue des Champions ensemble. Ils ont été réguliers pendant je ne sais pas combien de matchs, une quarantaine de matchs, en comptant le championnat, la Coupe d'Angleterre. Mané finaliste de la CAN. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Comment en tant que observateur professionnel, joueur de football professionnel, on vote pour d'autres joueurs qui ne sont pas forcément qui n'ont pas été à la même allure que ces deux joueurs-là. À un moment donné, il faut se poser bonne question, coach Lamine.
Oui,
faut arrêter l'hypocrisie.
Je vais vous expliquer. Et pourquoi leur coach il a eu un prix? Il est primé, le coach. Simplement parce que les joueurs, ils ont bien joué. Les joueurs ne les intéressent pas. Les joueurs ne les intéressent pas parce que derrière ça, il y a un message. Si on donne des prix à des joueurs africains, demain, vous n'allez plus accepter leur bande de touristes qui traînent dans nos... Parce que c'est une image. Eux, ils vendent une image. C'est ce qu'il faut comprendre. Mmh. C'est-à-dire que les Européens nous donnent l'impression qu'ils sont les meilleurs au monde. C'est pas vrai.
Coach Lamine, oui. Hakim, bonsoir.
Salut Adama. Non, il s'en va pas, il reste avec
Interviens, Adama, vas-y.
Oui, tout simplement, ce que je veux vous dire, de plus en plus, on est en train de nous traduire que le football, ce n'est plus une affaire de pros. Moi, je peux vous dire, je commence à le ressentir à travers les stats. Eh bien, de plus en plus, ça commence à craindre un peu. Non seulement nous sommes sous-évalués, et maintenant, nous-mêmes, Africains, nous votons contre. On n'a pas dit de faire des votes de complaisance, mais on a vu deux garçons qui, sur deux saisons consécutives, qui ont marqué le football mondial. Personne ne peut le nier. Moi, personnellement, je peux vous dire que la déception, même du côté de l'Espagne, certains ont baptisé ce prix El Precio de la Vergüenza.
Ah bah ça,
le prix de la honte.
Donc,
mais pourquoi Messi ne rend pas cette coupe-là, par exemple, à Sadio Mané? Oui, Christian Chango.
Juste deux précisions. Donc, la première sur l'aspect et l'impact médiatique. On sait que, par exemple, pour le Ballon d'Or France Football, il y a souvent un lobbying qui est fait par les joueurs.
Oui.
Un peu comme quand pour les Oscars, par exemple, où ils partent en campagne, entre guillemets, pour essayer d'orienter les votes pour eux. Ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que la Première Ligue est la compétition de football la plus vue au monde. Donc forcément, tout le monde, tous ceux qui suivent le foot, ont vu que les trois meilleurs buteurs du championnat anglais, c'était trois Africains, notamment deux qui avaient déjà brillé la saison d'avant, Mohamed Salah et Sadio Mané. Ensuite, c'est vrai que eux, dans leur communication, puisque tu parles de ça, coach, dans l'aspect show-off, les réseaux sociaux, tout ça, ils sont présents, mais dans un degré beaucoup moindre, beaucoup plus cadré, privé, que peuvent l'être, par exemple, Cristiano Ronaldo, qu'on voit partout, ou Lionel Messi. Juste pour Lionel Messi, il faut quand même préciser, il a fini premier, il a quand même pas volé son titre, il a fait une saison exceptionnelle. Mais, Sadio Mané, il le méritait.
Moi, je dis encore une fois, est-ce que ceux qui ont voté,
C'est ouais. ça.
Et ceux qui ont voté, est-ce que... parce que
ouais, t'as raison.
Faut rappeler ceux qui ont voté. Ce sont les fans, les capitaines, ouais. les entraîneurs.
Non mais t'as raison.
Et est-ce qu'ils n'ont pas voté par habitude quoi oui. quand
Cristiano,
on parle
Messi.
Cristiano Ronaldo.
Pif paf, on choisit. Voilà,
pif paf. Ça, ce sont
c'est
des.
C'est ce qu'on appelle donc, communication. C'est-à-dire que
par défaut,
par défaut, à force de répéter que cette personne est la meilleure.
Est la meilleure au monde. On cherche plus à savoir. Exactement. Ouais. Exactement.
Mais on doit pas tomber dans la routine. Ça, en fait. On a les yeux pour admirer le football. Le football est sans frontières. Le football est universel.
Mais quand mais Adama, dis-moi la vérité. Qui voit Est-ce que il t'arrive de regarder des matchs de deuxième division de la Liga
Oui, c'est Adama, oui, de Liga, oui, si on regarde.
Oui, la deuxième division, je la regarde moins que la première.
Ouais, ben voilà, si on te demandait de nommer le meilleur joueur de deuxième division de trucs, tu auras des difficultés, mais tu vas entendre parler que c'est Christian Shango, tu vas mettre Christian Shango.
Adama, en 2014.
Coach Lamine, j'ai les statistiques.
Oui, mais bon,
Adama,
qui va te regarder des statistiques
Adama, hein, allô en 2014, j'étais au Brésil.
Abdouchou, ça y est, on va venir vers vous.
J'étais au Brésil en 2014, Messi n'était pas le meilleur joueur de la compétition.
Qui
non, En 2014, vrai. Messi n'était pas le meilleur joueur de la compétition.
Son coéquipier Di Maria était meilleur déjà.
Mais il y avait Robben ou...
Di Maria même était meilleur que lui.
James Rodriguez. Mais ils ont donné le prix à Messi. Mais c'est une communication. C'est une communication.
Oui, Abdouchou, on vous écoute.
Oui, moi, ce que j'aimerais bien, c'est quoi? C'est que le président de la FIFA, je sais pas, qui refait le règlement des votes, hein, parce que là, quand on
regarde, vous proposez quoi? Vous proposez quoi? Vous proposez qui va
non,
voter?
Qui change quoi? Qui enlève là le règlement des votes des capitaines? Et qui mettent que peut-être que un vote genre du genre que les fédérations qui votent ou et les fans bon. Parce que là on peut s'apercevoir que là les votes les votants des journalistes
c'est censé être les plus objectifs les journalistes
les journalistes comme l'équipe
les journalistes ont placé qui en premier
ou même
Van Dijk.
Ou même les autres les journalistes français ne sont pas vraiment très clairs, hein, parce que je sais pas s'ils cachent bien leur jeu.
Non, après,
il ne faut pas. Non.
Sinon, même celui-là qui a fait les règlements, ceux qui travaillent même au sein de la FIFA, on ne sait pas s'il y en a qui cachent quelques votes, ou comme les élections, comme certaines élections présidentielles. Hein. Faudrait vérifier tout ça.
Faudrait faire une enquête. Deux choses sur les votes des journalistes en général, ils sont quand même assez objectifs. Là cette année, eux ils ont mis Van Dijk dans le prix FIFA en premier. On rappelle en 2010 Schneider qui l'a pas eu, il l'avait mis en premier. Ribéry en 2013, il l'avait mis en premier aussi. Et après il y a toujours le vote des sélectionneurs et des capitaines qui prend place. Mais quand on regarde, là on a donné les capitaines africains. J'ai dit par exemple Messi, capitaine de l'Argentine, il a mis Mané en premier. Eden Hazard, il a mis Mané.
C'est quelqu'un qui connaît le football.
Voilà. Eden Hazard, capitaine de la Belgique, il a mis Sadio Mané en premier. Daniel Alves, il a mis Messi. Après il a mis Mané en deuxième. Là j'ai les votes hein, devant moi, je vous dis donc Aubameyang, on l'a dit, lui il a fait son choix.
Et les coachs,
je vous donner quelques coachs un peu. Didier Deschamps par exemple, il a mis Mbappé, Ronaldo, Messi. Joachim Löw, le sélectionneur allemand, il est champion du monde, Didier Deschamps. Joachim Löw, il a mis Hazard, Mbappé, Mané. Gernot Rohr, sélectionneur du Nigeria, il a mis Mbappé, Van Dijk, Hazard. Et Hervé Renard, il a mis Mbappé, Messi, Van Dijk. Claude Leroy, le sélectionneur du Togo, il a mis Sadio Mané, Mbappé, Messi. Alain Giresse, le sélectionneur de la Tunisie, il a mis Ronaldo, Mbappé et Sadio Mané. Et donc, vous voyez, ça dépend, je vous dis, donc ça fluctue aussi.
Parce que normalement, c'est Sadio Mané numéro 1.
Oui, mais normalement, pour vous.
Et ça, c'est les fans. C'est pour ça que le pire des quatre votants, c'est les fans, puisque les fans, ce sont les moins objectifs. Il y en a beaucoup qui le sont, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas.
Eux,
mais ils ont le droit.
Plutôt, oui, bien sûr. Droit, eux, bien c'est sûr. Plutôt par rapport à leur. Comment ça s'appelle?
Il y a des coachs aussi incompétents que les fans aussi.
C'est qui?
Lui, par exemple, là, j'ai le coach du Mozambique. Lui, il a mis M. Martin Victor, a mis Cristiano, Messi et Van Dijk. Voilà. Donc, pour, donc même parmi nos sélectionneurs, après, chacun est libre de choisir.
Christian, tu peux me rappeler le vote du sélectionneur du Sénégal, s'il te plaît?
Oui, bien sûr, monsieur Cissé Aliou.
Il Sadio a mis Mané.
Sadio Mané en premier, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en troisième.
Voilà.
Ouais, mais
quoi?
Ouais, mais bon, Lionel Messi, numéro 2. Normalement, il met ça là, je sais pas.
Mais il fait son choix.
Il joue dans le même club. Après, Sadio Mané, c'est vrai, normalement, il est méritant parce que numéro 1, il est. Il a gagné la finale de Cannes. Il a tout gagné. Et normalement, c'est Sadio Mané.
Ouais, mais ça. Il n'y a pas de normalement. Chacun fait comme il veut. Tu vas manger quoi ce soir chez toi?
Il a déjà mangé, peut-être.
Qu'est-ce que tu vas manger chez toi? Ouais, t'as mangé quoi?
J'ai mangé du chabjem.
Ouais, voilà. L'autre, il va manger du couscous, lui. Chacun mange ce qu'il veut.
Moi,
je suis à la radio, hein, j'ai rien mangé. Hein. Oui, Christian.
Oui, juste pour. On a entendu, pour ouvrir le débat, Samuel Eto'o, qui, donc, avec sa fameuse déclaration, il y a l'ancien international sénégalais, ton grand ami, monsieur Elhadj Diouf, lui, qui ne partage pas donc un peu ce qu'a dit Samuel Eto'o. Il dit oui, donc en gros, il faut que les gens reviennent sur terre. Je suis d'avis que Sadio Mané devrait figurer parmi les trois joueurs nominés pour le trophée. Au pire, quatrième. Sadio a fait de belles performances, mais nul n'ignore que Messi mérite bien cette distinction.
Ouais, mais venant de lui, avant la Coupe du Monde, je l'ai vu déclarer que, et je l'ai entendu déclarer que,
tout à fait.
Et Messi est le meilleur joueur de football de tous les temps. Mm-hmm. Je ne sais pas de quel temps il parle, s'il a une culture de football, lui.
Je vais juste dire la deuxième partie de sa déclaration, je te repasse le ballon, coach. Oui. Il a dit il faut pas que Sadio Mané ait un esprit revanchard envers les autres, que ce soit le Ballon d'Or, le Trophée The Best. Il faut d'abord des perfs individuelles. Et Messi, cette année, a son compteur 51 buts.
Oui,
faut reconnaître
que quand même, bon, Elhadj Diouf peut-être n'a pas envie que Sadio Mané ait un Ballon d'Or comme lui l'a oui, été. Voilà.
Parce que c'est lui le plus grand joueur sénégalais, mais peut-être.
Exactement.
Il y a que lui qui pense ça.
Ce que mais justement, c'est pour ça que j'ai cité ses propos, en disant bien que c'est à propos d'Elhadj Diouf.
Oui, mais lors de la Coupe d'Afrique, on a vu les déclarations, les analyses de Diouf avant la finale. Hein, donc, je pense qu'à quelque part, il voulait pas voir le sac de cette nouvelle génération. Parce que voilà.
Mais c'est normal.
Le coach Lamine n'ont pas pouvoir pu remporter. Et si les jeunes ils arrivent, c'est de bonne guerre. Hein.
C'est comme moi. Je ne veux pas que Christian Chango me remplace ici. Hein.
Faut que j'aille en finale de la CAN déjà et on en reparlera.
Et c'est pas pour ça qu'il n'est pas compétent.
C'est pas pour ça qu'il est pas compétent.
C'est ça. Tu le connais, qu'il est compétent. Mais
je sais que je l'ai compétent. La preuve, il est avec nous. Hein. S'il n'était pas compétent. Il serait déjà viré. Messieurs, il nous reste quoi? Une minute et demie. Et puis donc,
merci Abdoujou.
On va finir, hein, on va finir
oui,
rapidement.
En fait, je veux juste rapidement pour la liste là, du Sénégal. La liste à l'UCC, il a
oui,
publié.
Sait,
et moi, je trouve que vraiment, elle est un peu dégarnie au niveau du milieu de terrain qui manquait, pour ma part, hein, parce qu'il manque. Parce que. On critiquait souvent le jeu du Sénégal.
Il manque qui? Allez-y vite, il nous reste une minute là.
Ben pour moi, il manquait Santingam, Openguet et Grand Cyr.
Bon, ben écoutez,
pour
on va
vraiment éclairer le jeu du Sénégal.
Ouais, écoute, Abdouchou, on va l'appeler pour lui dire qu'Abdouchou n'est pas d'accord avec le milieu de terrain.
Il manque déjà.
Ça marche. Ah, merci beaucoup l'équipe.
Merci Adama. Abdouchou. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.
Muchas gracias, hermano.
La semaine prochaine.
Christian Chango.
La vista.
Voilà, ok. Christian Chango, rapidement, 50 minutes.
Merci à tous. On se voit la semaine prochaine et allez Paris demain soir.
Allez. Doyen Willy.
Alors, bisous à Hélène.
Oh là 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 là. Hakim, allez, vas-y.
Salut à tous, merci, bonne semaine. Et puis, pour écouter l'émission, tout simplement, une seule adresse, www.africaradio.com.
Ben, écoutez, merci beaucoup. Dans
merci
quelques instants, vous restez toujours branchés sur Africa Radio avec Fatou. Fatou, tu vas où ce
soir? Où
est-ce
qu'elle va encore ce soir?
Eh ben, ce soir, elle va faire rigoler les gens, d'habitude.
Non, je crois que y a une belle émission ce soir.
Une belle émission pour vous faire sourire avec Fatou Birama. Elle va où, là?
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.